Dans le fond, cette vidéo-là, bon, la façon dont ça a été traité par Radio-Canada, l'expérience en soi, ça soulève beaucoup de questions. Donc, premièrement, je m'adresse à toute la table. Donc, dans le fond, c'est quoi vos réactions à cette vidéo-là, au traitement journalistique qui a été fait? Est-ce que vous pensez que l'expérience était pertinente? Est-ce que vous pensez que ça a été fait dans les règles de l'art?
Si je peux commencer, c'est sûr que c'est toujours intéressant de venir valider certaines choses. C'est toujours intéressant de faire des expériences comme celle-ci parce que ça nous remet vraiment en question. Après, c'est sûr que c'est un petit peu spécial, surtout dans quoi qu'on s'ancre présentement. Donc, je pense que c'est quand même intéressant. Après, c'est sûr que quand on parle justement de nationalisme et d'identité aujourd'hui, c'est beaucoup plus virulent que peut-être il y a quelques années. Ou donc, je pense que c'est quand même pertinent de faire ce genre d'exercice-là. Après, on peut toujours en débattre par la suite sur la légitimité justement de qu'est-ce qui a été fait.
Ben, moi, je pense que c'est pertinent, mais ça serait encore plus pertinent si ça avait été fait dans plusieurs universités. Je pense que c'est pas par hasard qu'on a choisi l'UQAM. Comme on l'a dit, c'est très gauchiste. Puis, je pense que il y a un vœu de sensationnalisme là-dedans. On savait que ça ferait réagir. C'était évident. Fait que moi, je pense que c'est pas un phénomène qui est particulièrement présent à l'UQAM, ça serait intéressant. Si c'est pas nécessaire, je pense, de faire cet exercice-là, mais dans beaucoup d'universités à Montréal et pourquoi pas dans les autres villes au Québec aussi, justement pour pouvoir comparer puis voir les réactions par rapport à ça.
Oui, parce que justement, qu'est-ce que tu dis, Frédéric, c'est que le reportage, un peu, il nous a montré ça comme si c'était une recherche universitaire. On va faire une enquête terrain, on va sonder les réflexions, on va compiler les données. Mais il y avait clairement des limites en partant avec une espèce d'intention de provoquer plus à l'UQAM. Puis encore là, on essayait de voir est-ce qu'il y avait une liberté dans toutes les universités, puis une liberté d'expression dans les universités. Puis on a appliqué l'expérience UQAM à toutes les universités dans le reportage en disant que finalement, il y avait des bien-pensants partout qui voulaient bannir le discours. Parce que dans le fond, quand on parle des réactions, pour préciser, c'est qu'il y a eu des affiches qui étaient en réaction à l'autre. Et il y a eu le groupe Solidarité pour les Palestiniens qui a posté sur leur page Facebook aussi pour dire qu'ils étaient en opposition à cette conférence-là. Après ça, l'affiche réagit à ça avec un mandat de pouvoir bannir la conférence fictive qui n'a jamais eu lieu, finalement.
Oui, mais dans le fond, moi, ce que je me pose aussi la question, là, on tente aussi de faire une mauvaise réputation à l'UQAM, souvent, là, dans les médias, puis des groupes d'étudiants qui empêchent, d'étudiants et étudiantes qui empêchent la tenue de conférences, ça s'est vu aussi ailleurs, là, dans d'autres universités. C'est pas un phénomène juste ukamien. On pense, par exemple, à Concordia, il y a eu une conférence de Jean Charest, notre ancien premier ministre, qui a été justement annulée parce que des étudiants et étudiantes l'ont empêché de tenir son propos. Donc, c'est pas un phénomène juste à l'UQAM.
Effectivement. Puis je pense que la chose qui est intéressante, c'est que à la place de se pencher juste sur on enlève les affiches, mais il y a toute une réflexion derrière qui fait que il y a des actions qui ont été posées contre cette activité-là. Puis tu sais, on va pas se cacher, à l'UQAM, c'est très fort en sens social, tu sais. Fait que c'est sûr que tu mets pas tes affiches nécessairement à la bonne place, mais il faut aller plus loin, puis il faut pousser la réflexion. Mais il est arrivé quelque chose, il y a une réflexion qui a été faite derrière qui fait que les gens réagissent comme ça. Donc c'est pas juste les gens sont pas ouverts au débat, non, au contraire, je pense que ça a déjà été matière à réflexion avant même. Donc tu sais, je trouve que comme tu disais tout à l'heure, Marie, c'est un petit peu biaisé, où il y a même des limites, où tu sais. Donc,
mais plus que biaisé puis des limites, là, je veux dire, quand on regarde comment c'est présenté, je veux pas dénigrer, mais il y a pas l'air d'avoir tant de rigueur scientifique que ça. C'est vraiment, ça me tombe de faire ça, je vais faire ça. Est-ce qu'elle a vraiment fait une rigueur scientifique, une méthode scientifique en sciences sociales qui est approuvée?
Oui, moi je trouve que ce reportage-là était sensationnaliste.
Absolument.
Puis il y avait aussi une entrevue avec Normand Baillargeon qui était utilisée à travers le reportage, qui parlait des safe spaces. On va l'aborder plus en dernière partie d'émission. Mais j'ai trouvé que c'était une instrumentalisation du discours de Baillargeon qui fitait vraiment avec ce qu'elle disait. Puis dans le fond, dans son discours, elle disait beaucoup que, bon, c'est une minorité d'étudiants mobilisés qui, dans le fond, prennent en otage tout le reste des étudiants et étudiantes pour faire valoir leur volonté politique. En tout cas, c'était vraiment... j'ai vraiment pas aimé la façon dont le reportage était construit. Oui.
Mais justement, c'est comme s'il y avait un message qui était sous-jacent au reportage qui n'a jamais été dit. Est-ce que la question qui était vraiment importante du reportage puis qu'on n'a pas traité, c'est est-ce que à l'UQAM spécifiquement, on a un problème avec l'expression contraire? Est-ce que les gauches bien pensantes sont en train de contrôler le débat? C'est un peu ça qu'on voulait parler. On voulait pas savoir est-ce que globalement, on peut pas avoir ces discours-là. C'est directement, est-ce qu'il y a une élite de gauche qui bannit le débat avec les opinions qui sont contraires à eux, puis pas juste pour des affiches, là, mais pour les conférences, dans les cours, dans la direction, que ça prend autant dans les profs que dans les étudiants. C'est de ça qu'il faudrait parler, au lieu de parler est-ce qu'une affiche contre le nationalisme identitaire a été persécutée par un groupe qui est contre l'islamophobie. Là.
Mais surtout que ces affiches-là se placent dans un contexte qui est extrêmement particulier au Québec. Tu sais, il y a les attentats, l'attentat à Québec là, c'est pas le genre de choses dont on sort indemne là. Puis particulièrement les personnes musulmanes, les personnes arabes qui ont été touchées.
Surtout que c'est très frais.
Ben, c'est très ça, exactement. Puis là, elle se promène dans l'école, puis elle voit des affiches qui ont un message que je rapprocherais de la xénophobie, sincèrement. Puis ce genre de choses-là, à mon sens, c'est inacceptable.
Mm-hmm. Il manque beaucoup de rigueur scientifique, tout à fait, à cette recherche-là. Puis en plus de... tu sais, je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive à toujours revenir là-dessus, puis de montrer... Tu sais, à chaque fois, c'est comme si que les peuples minoritaires étaient presque rendus des espèces d'assaillants un peu. Je sais plus où qu'on se place vraiment. Quand on dit comme quoi qu'il y a plus de liberté d'expression, oui, il en a, mais c'est parce qu'il faut être au même niveau, dans le sens qu'il faut que la personne, bon, qui veut faire cette conférence-là comprenne les enjeux réels des groupes minoritaires. Tu sais, comme, tu peux pas juste arriver puis dire, on est envahi, ben, écoute, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est parce que, il y a quelque chose que t'as pas compris quelque part, puis oui, il y a la liberté d'expression, mais c'est en toute connaissance de cause, là. Tu vas pas aller afficher ça pour le fun d'aller afficher la crise. Tu sais, comme, je trouve qu'il manque un peu de... Ben encore deux fois de rigueur, là, je vais leur dire. Là. Mm-hmm.
Mais c'est tout dans la définition de c'est quoi la liberté d'expression. Je voyais une image sur Facebook, c'était peut-être pas la chose la plus rigoureuse non plus, mais qui disait la liberté d'expression, c'est pas nécessairement de pouvoir dire tout et n'importe quoi, puis de faire si t'aimes pas mon propos, t'as pas le droit de rien dire, parce que justement, l'opposition, c'est aussi une liberté d'expression. Puis la liberté d'expression en tant que telle, c'est de pas être persécuté pour ses idées. Est-ce qu'on est persécuté parce qu'il y a une affiche qui est collée à côté de la tienne? Peut-être qu'on pourrait parler de la persécution puisque la conférence est annulée, mais encore là, si ça a été une réaction démocratique...
Ben c'est ça, il faut voir là, c'est quoi la liberté d'expression, pourquoi est-ce que ça existe? Est-ce que la liberté d'expression, c'est permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi? Alors oui, c'est très grave de censurer un message, mais si on part du principe que la liberté d'expression, elle a été mise en place pour garantir la possibilité aux minorités puis aux personnes qui sont pas en position dominante de pouvoir critiquer le pouvoir puis de pouvoir apporter une discussion, alors là laisser un discours qui est identitaire puis qui est xénophobe, ben ça a rien à voir avec la liberté d'expression qui est sacro-sainte là. C'est vraiment deux choses différentes à mon sens. Hein.
Mais pourquoi c'est un débat qui est toujours d'actualité? C'est parce que justement la limite parfois elle est mince. C'est que personne s'entend sur la définition exacte et où est la limite et où est-ce que ça la dépasse et où est-ce que c'est encore de la liberté d'expression ou est-ce que c'est du salissage ou de la xénophobie ou etc., etc.
Oui,
c'est ça qui est difficile, en fond. C'est pour ça que c'est un débat, je pense, qu'on n'a pas fini d'avoir parce qu'on n'a toujours pas identifié de façon consensuelle en tant que société où est la limite.
C'est d'ailleurs pourquoi les propos de Normand Baillargeon sont tellement, décriés, mais aussi adulés, dépendamment de où on se place, parce que certains trouvent qu'il y a bien raison de dire ce qu'il dit, d'autres sont en total désaccord, donc ce sera un bon sujet à aborder en deuxième partie d'émission, mais on va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, avec Take Me Inside de l'artiste Samfa.
does he still make your blood rush? These days I'm just not sure how to feel. Does he still make you run wild? Silence and your lips were sealed, as if you didn't care and your love was gone. Her love was lost. Come before the storm. I don't care if you take me inside. Every time, and I know it's hard to find the mind to say you do.
Excusez-moi, c'est l'animateur qui joue à la technique parce que notre chère Camilla nous quitte pour un échange étudiant au Chili, donc il y aura des petits ratés, c'est normal.
Qui sait, peut-être que je vais pouvoir vous faire des chroniques de l'autre côté de l'hémisphère.
On va s'ennuyer de toi, Camilla.
On espère que vous allez, que tu vas nous revenir rapidement et en santé. Donc, juste avant la petite pause musicale, on parlait justement de la justification de bannir certains propos, certains discours. Est-ce qu'il y a des propos qui n'ont pas le droit d'être exprimés? Donc, est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que la liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres? Est-ce que la liberté d'expression justifie des propos racistes, des propos sexistes, des propos qui mènent à la discrimination ou à la violence? Donc, je pense qu'il y a un consensus quand même qu'on permet pas des incitations à la haine, le néo-nazisme, par exemple, ce genre de choses-là. Mais justement, je voulais savoir. Est-ce que le fait d'entendre des propos borderline, là, on s'entend, il y a des propositions de conférences dans les universités qui sont vraiment borderline, qui sont plus de droite, qui comprennent beaucoup moins les enjeux. Par exemple, il y avait cette dame là dans le reportage qui venait parler des enjeux queer, par exemple. Est-ce que le fait que ces propos-là, on soit en désaccord absolu avec, puis on trouve qu'ils n'ont pas leur place, est-ce que ça justifie de les empêcher d'avoir lieu? Donc, c'est la question que lance Normand Baillargeon, puis je vous la lance aussi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais en fait, pour revenir sur le propos de Normand Baillargeon, c'est pas nécessairement ça qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait... en tout cas, je suis pas dans la tête de Normand Baillargeon, mais juste son propos au complet, c'est que, d'après lui, tous les points de vue devraient être exprimés, parce que c'est même à travers les mauvais points de vue qu'on peut les contrer, puis qu'on devrait pas nécessairement les censurer, mais on devrait simplement, en tant que citoyen, les refuser. On devrait pas y penser, mais pour ça, il fallait les entendre, puis il fallait les challenger, pas nécessairement juste les bannir.
Oui, mais c'est ça justement parce que lui il dit qu'il faut les challenger. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que un groupe d'étudiants étudiantes qui entre dans une telle conférence puis qui empêche la conférence d'avoir lieu, ça fait pas en sorte que par exemple le traitement médiatique le lendemain dans les médias va pas être centré pas sur le message qui était pas très bon, mais sur bon l'acte de violence entre de gros guillemets là qui vient de se produire, qu'on a empêché quelqu'un d'avoir tenu ce discours là.
Ben au niveau de la Fèche, moi je sais que la Fèche a publié quelque chose sur sa page Facebook qui disait que dans le fond c'était le reportage en tant que tel était traité de façon extrêmement sensationnaliste à cause que eux, leur démarche va beaucoup plus loin que simplement perturber des événements, puis que ils vont c'est ça, faire beaucoup d'autres actions, puis ils sont pas nécessairement fermés à la discussion. Mais la partie de l'entrevue qui a été gardée, c'est celle où ils disaient ben oui, on peut aller jusqu'à là, on peut aller jusqu'à perturber une conférence. Maintenant, à mon sens, qu'est-ce qui est important de garder en tête, c'est que les gens, voyez-vous, il y a une différence entre un discours qui est intellectuel. Justement, Baillargeon parle de l'université qui devrait être le lieu suprême, le lieu par excellence du débat, de la discussion, de façon à faire bouillonner les idées, si je suis bien son raisonnement. Le problème avec ça, selon moi, c'est que voir toutes ces discussions-là seulement comme des discussions et les voir seulement sur le plan intellectuel, c'est un très grand privilège. Parce que pour les personnes qui sont victimes d'islamophobie ou de racisme ou de sexisme, peu importe, ça va au-delà du discours intellectuel. Ça va jusqu'à le sentiment de sécurité émotionnelle et même physique parfois. Est-ce que je peux être dans mon université sans avoir l'impression qu'il y a des gens qui veulent pas de moi, qui veulent pas ce que je représente et qui sincèrement me détestent? Est-ce que on peut mettre ça sur le même point, sur le même plan de réflexion que disons-le franchement, l'homme blanc de 60 ans qui lui veut réfléchir dans son salon? Tu sais, c'est quand même on parle de deux niveaux différents à mon avis là.
Tout à fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis en même temps, tu sais, quand que Normand Baillargeon parle justement de ce choc d'idées-là, mais il faut justement que le choc d'idées soit au même niveau, parce que si tu veux parler justement des enjeux identitaires québécois, il faut que tu intériorises d'autres choses que simplement les enjeux québécois. Tu sais, il y a plein d'autres enjeux qui sont importants à intérioriser. Puis quand tu prends pas en compte, tu sais, je pense que c'est vraiment... Quand tu prends le temps de lire, que tu prends le temps, tu sais, même quand la femme qui parlait, qui a été perturbée par sa conférence sur les enjeux queer, tu sais, il faut être capable d'intérioriser certains enjeux. C'est beaucoup plus que donner son opinion, parce que, tu sais, je pense que je suis très sévère à propos de ça, parce que c'est sûr que si toi, t'en connais plus que moi sur un certain sujet, je vais te laisser. Mais sur d'autres choses, si c'est des gens de la communauté minoritaire qui te dit que ça marche pas, mais c'est parce que ça marche pas. C'est comme... C'est pas la liberté...
C'est ça, il faut laisser la parole à ceux que le problème ou que la situation concerne réellement.
Exactement. Puis les gens qui ont intériorisé cette problématique-là, ça rien que t'en as l'opinion si t'intériorises pas la problématique des autres. Là, rendu là, on est en train de... OK, il y a pas vraiment de choc d'idées, là. C'est un mur contre un mur, là. Comme tu comprends pas qu'est-ce que je te dis, puis je comprends pas qu'est-ce que tu me dis parce que t'as pas intériorisé qu'est-ce que je t'ai dit. Mais là, on avance pas, là. Comme, il faut être au même niveau. Puis pour ça, il faut que les gens aillent lire. Tu sais, tu peux pas juste te faire une opinion sur l'immigration au Québec sans avoir lu. Donc, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on néglige beaucoup la théorie, on néglige les lectures, on néglige les grands auteurs, et il faut revenir à ça un peu.
Ou simplement aller parler, entamer la discussion, essayer de comprendre. Puis il y a une différence entre essayer de comprendre et faire un parallèle avec le mansplaining, c'est-à-dire il y a une différence entre entamer une discussion qui est saine et propager un discours qui va être douteux, ou expliquer aux gens des minorités ce qui se passe, puis ce qu'ils devraient ressentir, puis comment ils devraient se comporter, tu sais.
Mais je pense aussi que des nuances qu'il faudrait faire des fois qu'on fait pas. Je veux dire, les sujets sont très très sensibles. Je veux dire, la xénophobie, le racisme, le sexisme, les enjeux queer, c'est des sujets qui sont pas mal plus sensibles et qui justement visent des minorités. Mais si on se transpose dans un autre contexte, par exemple, où il y aurait, je sais pas là, je réfléchis, mais par exemple, un théoricien politique qui voudrait parler de libertarianisme, est-ce que, par exemple, un discours comme ça, qui pourrait être abject sur beaucoup, beaucoup de points, devrait être permis dans l'enceinte d'une université? Je sais pas. Je vous lance la question.
Ben, moi, je te dirais que ça fait 2-3 fois que je relève que tu as vraiment un penchant contre la droite, Émilien, parce que c'est comme si tu associais la droite ou le libertarianisme nécessairement au démon, quand, en tant que tel, on va se le dire, là, c'est des idéologies, là, mais c'est pas parce que tu es de droite que tu es contre l'existence de l'autre ou que tu... ou que tu es fasciste, là. Il y a une différence, je pense, entre la gauche, la droite, et être raciste, antiraciste, sexiste, antisexiste. Puis aussi, on a des espions en coulisses qui nous disent que ça serait peut-être bien de faire la distinction. Tu sais, la fèche, ses actions étaient motivées par un mandat qui a été donné par ses membres de pas valoriser les propos antiracistes, antisexistes et homophobes. Donc, en tant que tel, d'une certaine manière, ils mettaient en action leur décision démocratique, mais ça veut pas dire que toute l'UQAM était comme ça, des gens partant. Mais moi, je dirais que le gros débat qu'on a à faire, c'est quand est-ce que le débat est constructif ou il est pas constructif. Donc, d'avoir des propos qui sont contre l'autre, c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Dire, moi, je permets à tout le monde d'avoir leur opinion tant que ça vient pas nuire au respect de l'intégrité de la personne de l'autre, tu sais. Mais je pense que le libertarianisme, on peut être pour, on peut être contre, là. C'est une idéologie qui vient par rapport à l'État, par rapport au rôle de comprendre dans nos positions sociales, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. Puis je pense que on pourrait très bien l'étudier d'une certaine façon. Ça veut pas dire que le libertarianisme est contre les autres. En tout cas, ça, on pourra en rediscuter, mais c'est un autre débat, genre...
Oui, j'ai mélangé un peu les pommes et les oranges, là, mais c'était pour vous titiller un peu.
Ouais, tu voulais...
Ouais. C'est parce que moi, je pense qu'on peut absolument tout dire, c'est toujours dans la façon. Puis là, le débat qui est là présentement, c'est vraiment dans la façon, c'est dans la forme et non dans le fond. C'est comme le reportage, on dit qu'il est sensationnalisme. Dans la forme, on l'a critiqué beaucoup, mais dans le fond, ça soulève quand même un débat qui est important à voir, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Ouais.
C'est toujours dans la façon, parce que moi personnellement, je pense qu'on a un problème de liberté d'expression à l'UQAM, parce que moi, je me sens souvent pas du tout à l'aise de dire ce que je pense, parce que je sais que je vais être rabrouée instantanément, que on va me donner des qualificatifs dans lesquels je ne me reconnais absolument pas. Je ne me considère pas de droite du tout, là, puis même si c'était le cas, de façon, je le dirais, là. Mais c'est vraiment, il y a une vague de gauche qui est très, très, très forte à l'UQAM et qui prend toute la place. Et quand tu n'es pas dans cette vague-là, tu te sens vraiment pas bien. Moi, personnellement, je ne me sens pas à l'aise de m'exprimer à l'UQAM, souvent, pas tout le temps, souvent. Et c'est que je me sente comme ça, je trouve que c'est pas normal. Puis c'est la preuve pour moi qu'il y a un problème de liberté d'expression.
Puis je tiens à dire que je pense pas que t'es une personne qui a juste cette expérience-là de façon unique, parce que je connais aussi des gens qui ont cette expérience-là. Puis je pense, personnellement, je l'ai aussi eu au moment de la grève. C'est dans le sens que il y a un propos que Normand Baillargeon dit beaucoup dans le reportage qui était intéressant, c'est que il y avait un sort de discours de bienveillance, de supériorité morale, comme si parce qu'on prenait ces propos-là, on aimait tout le monde, puis dans le fond, on va pas toujours écouter le propos de l'autre, on n'a pas nécessairement d'empathie pour les gens qui pensent pas nécessairement comme nous, puis nombre de fois que comme dès que t'es pas dans cette mouvance-là, tu te ferais traiter d'individualiste de sans cœur parce que oh toi tu veux pas manquer tes cours, ça veut dire que t'es pas pour la collectivité, je veux dire. C'est un discours qui peut être très néfaste au niveau de l'échange d'idées, puis essayer de propager ton idée, parce que la seule affaire que ça fait braquer les gens, ça fait créer des clans, puis on finit par devenir de plus en plus polarisés, là.
Ouais, je comprends je trouve ça vraiment dommage.
Rapidement, Tessie, parce qu'on doit finir.
C'est bon. Je trouve ça vraiment dommage que vous êtes senti primé là-dedans, mais reste que, tu sais, c'est la première année, cette session-ci qu'on a un cours du féministe noir, là. C'est parce que, on n'a pas avancé, là, dans le sens que c'est bien beau de dire que oh, je me sens brimée ou des choses comme ça, mais on n'est pas tous au même niveau, donc je pense que c'est important de le souligner.
Donc, cette question-là soulève de vifs débats. Malheureusement, c'est tout le temps dont on disposait. On essaiera peut-être de faire une heure éventuellement à l'émission. Je vous rappelle qu'on était en compagnie de Marie Chabot-Jensen, Frédéric Routier, ainsi que Tessie Jean-Paul, Camilla Rodriguez-Sea et moi-même, Émilie Roscanou, à l'animation. On se revoit la semaine prochaine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Tu veux du court, du long, du classique, du docu, de la réalité virtuelle et même des films de fesses? Au rendez-vous du cinéma québécois, on a du bon stock. 340 films, 110 premières, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma, du Louis-José Houd, de l'impro, du Anne Dorval, un show la nuit, des DJ, du ding et dong et des activités pour toute la famille. C'est LE moment où on célèbre nos films québécois et où on rencontre leurs artisans. Du 22 février au 4 mars, c'est LE rendez-vous du cinéma québécois. Puis cette année, il y a vraiment du bon stock. Visite lequebeccinema.ca.
Choc.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Volet concours du festif de Baie-Saint-Paul. Un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 $ en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca/cabaret pour visionner les performances des 3 finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et Choc.ca font la paire pour la relève.
What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Jeudi soir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission débrouillante. Pasqualina avec vous pour la prochaine heure, accompagnée de Julie. Salut!
Hello!
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va bien. Toujours aussi contente d'être derrière le micro avec moi.
Non, mais c'est super intéressant, en fait, de participer à une émission de radio. Toute cette recherche et toutes les découvertes que je fais, en fait, c'est tellement... C'est enrichissant.
Ah,
écoute,
pas juste pour toi, en plus, imagine les gens qui t'écoutent.
On donne tant d'informations au suivant, on adore ça.
Puis, ben, parlant de données, on continue de donner dans le... Non, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on continue avec la partie 2 de l'émission de la semaine passée, si on veut. Je pense qu'on va terminer cette semaine.
On va donner la place à l'Angleterre, c'est ça que tu voulais dire.
C'est ça, merci, t'as tout compris, je chance sais. T'es là. C'est ça, oui. Fait qu'on continue aujourd'hui avec, dans le fond, surtout des groupes peut-être un peu plus, mettons, des années 70-80. Toi, t'as quelques trucs un petit peu plus récents aussi.
Moi, j'ai du 2000 là-dedans.
Incroyable, 2000,
je sais.
Incroyable,
mais tellement vrai. Récente.
Oui, mais t'es tellement actuelle.
Je sais.
C'est ça.
Ouais, super. Puis, actuelle.
Je vais te laisser commencer.
Ben oui, en fait, on continue, en fait, l'émission Angleterre parce que... C'est peut-être un petit pays sur une carte géographique, mais c'est un pays riche en groupes.
Surtout en groupes punk, puis là, en plus féminin, ça arrête plus.
Ouais. Donc, la première chanson de cette journée, en fait, cette soirée, on va parler du groupe Girls School, qui est un des rares groupes de métal entièrement féminin. Et c'est le band de rock féminin avec la plus longue durée d'existence, soit 35 ans.
C'est incroyable.
C'est quand même assez fou. Donc, le groupe a été fondé en 78. Girls School s'est fait remarquer par Lemmy de Motorhead, en fait, quand il a écouté leur premier single, Take It All Away, qui est d'ailleurs le single qu'on va écouter tantôt. Okay. Donc, Lemmy ayant beaucoup aimé la chanson, leur a proposé de participer à sa tournée.